Okapi, Okapi.
À 19h15 à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Place au magazine Dialogue entre Congolais avec vous, Alain Hirung. Bonsoir.
Bonsoir. Deux thèmes dans cette émission. D'abord, 49e anniversaire d'indépendance. Dans son discours à la nation, le président de la République exige aux magistrats de cesser d'abuser de leur indépendance pour martyriser le peuple et promet de mettre fin à cet état de choses. Comment le président de la République pourrait-il s'y prendre ? Deuxième sujet, alors que la RDC célébrait hier, mardi 30 juin, la fête d'indépendance, les FDLR ont attaqué une position des FARDC à Kasséguè au Nord Kivu. Bilan, une dizaine de morts. Comment expliquer cette attaque en pleine commémoration de l'indépendance ? Nous recevons comme invité pour la première partie Thomas Louaka, député national, secrétaire général adjoint et porte-parole du MLC. Il est avec nous dans ce studio. Maître Jean Bouyou, député national PPRD, il est en ligne. Professeur Edikia Mbokolo, analyste politique et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les magistrats doivent cesser d'abuser de leur indépendance pour martyriser le peuple déjà meurtri et éprouvé par une crise multiforme. Déclaration du président de la République hier à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Joseph Kabila a réaffirmé sa détermination à mettre un terme à cet état de choses dans un bref délai avec le concours des instances attitrées. On écoute le chef de l'État congolais, Joseph Kabila.
Aujourd'hui, la justice est elle-même au banc des accusés. Abusant de l'indépendance liée pourtant à la délicatesse et à la noblesse de sa charge, le magistrat se rend lui aussi coupable de dol, de condition, de corruption et voire même des infractions de droit commun avec une facilité déconcertante. Quant à moi, garant constitutionnel du bon fonctionnement des institutions, je suis déterminé à mettre fin à cet état de choses avec le concours des institutions. Dans cette perspective, j'entends tirer incessamment toutes les conséquences de conclusion des travaux de la deuxième session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature tenu à Kinshasa du 13 au 23 juin courant. Il est temps que les opérateurs judiciaires choisissent leur camp, celui de servir ou de martyriser davantage un peuple déjà meurtri et éprouvé par plusieurs années de conflits et de violences. Je ne doute pas du reste de tout le soutien que la population tout entière apportera à ces mesures qui, dans les plus brefs délais, contribueront à coup sûr à garantir la justice et la sécurité judiciaire pour tous.
Réagissant au discours du chef de l'État fustigeant le comportement de certains magistrats qui se rendent coupables de la corruption, le syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC, se dit être d'accord avec Joseph Kabila. Mais au-delà de la sanction à l'encontre des magistrats, le SINAMAC estime qu'il faut d'abord repenser profondément le véritable problème d'ordre social et y remédier. Le syndicat déclare, je cite, « Le chef de l'État doit aussi étendre la justice aux ministres et aux députés au lieu de se limiter aux seuls magistrat. » Fin de citation. Maître Jean Bouyou, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes député national PPRD. D'emblée, comment vous avez reçu, de manière générale, le discours du chef de l'État à la nation?
De manière générale, je pense que c'est un discours qui a fixé la plupart de nos concitoyens sur un certain nombre de points, et notamment la mission propre du chef de l'État en tant que première institution de la République et, disons, son rôle de veiller sur le bon fonctionnement des institutions. Ça, c'est d'une manière générale, ça, le discours est resté dans cette ligne-là. Et deuxièmement, la question délicate du pouvoir judiciaire dans le contexte de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Comment le chef de l'État peut-il agir sur la magistrature dès lors que c'est un corps autonome, disons même, pour prendre l'expression traditionnelle, indépendant? C'est un peu ça l'enjeu. Il n'a pas un pouvoir direct d'agir de manière autonome. Et l'unique possibilité, c'est le fait qu'il doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Et c'est à cet égard qu'il lui est donné la possibilité d'une intervention dans la magistrature, mais tout à fait au niveau de veiller au bon fonctionnement des institutions.
Thomas Louaka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national, secrétaire général adjoint et porte-parole du MLC. Votre point de vue aussi, en fait, qui concerne la lecture générale que vous avez faite du discours du président de la République.
Et sur cette question particulière, nous avons l'impression que le chef de l'État est resté dans sa dynamique de dénonciation. Ce n'est pas la première fois. On a l'impression que à chaque date d'anniversaire, il y a un discours qui dénonce les méfaits qui minent notre société. Si nous sommes d'accord sur les diagnostics, mais nous attendons quand même que le chef de l'État d'aller un peu plus loin que ça. On l'appelle le premier magistrat, pas parce qu'il est dans la magistrature, c'est-à-dire que les garants du bon fonctionnement des institutions. Et il y a une loi aussi qui dit, il y a un adage latin qui dit que le salut du peuple est la suprême loi. Donc si vraiment l'intérêt du peuple congolais est mis en cause, le chef de l'État doit prendre toutes les mesures pour pouvoir sauvegarder les intérêts du peuple congolais. Donc aujourd'hui encore, il a dénoncé, lorsque le chef de l'État a prêté serment, il avait aussi dénoncé, il avait annoncé la fin de la récréation, les portes des prisons étaient ouvertes, et nous sommes inquiets, nous avons l'impression que nous allons finir tous les mandats par une série de simples dénonciations.
Mais comment pensez-vous que le chef de l'État peut agir? Maître Jean Bouillou dit que le chef de l'État n'a pas de pouvoir direct, la seule façon qu'il a peut-être de veiller au bon fonctionnement des institutions.
Et là, on peut répondre de deux manières. Sur le plan des faits, nous sommes au Congo, nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous savons l'influence réelle que le pouvoir AMP Palou a sur notre justice. Nous le savons, qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires. Nous savons à plusieurs reprises, le pouvoir AMP Palou a violé cette indépendance en prenant des décisions, en s'immisçant dans la justice. Donc, je pense que, parce qu'ils l'ont déjà fait dans le passé, on a vu là les chefs de l'État qui envoyaient à la retraite des gens qui avaient parfois dépassé l'âge, mais d'autres qui n'avaient même pas encore atteint l'âge de la retraite, le chef de l'État les a mis à la retraite. Donc, cette indépendance n'est pas aussi totale qu'on aimerait nous le faire croire. Deuxièmement, sur le plan juridique, le chef de l'État est le responsable numéro un de l'exécutif. Comme vous le savez, le parquet général, c'est-à-dire les gens qui ont pour fonction d'actionner l'action publique, de commencer à mener des enquêtes contre des gens qui ont violé la loi, le parquet général dépend du ministère de la Justice. Donc, par le biais du ministère de la Justice, le chef de l'État peut lancer des actions contre tout délinquant.
Maître Jean Bouillou, vous venez de suivre l'honorable Thomas Louaka, votre collègue député. Il pense que, en fait, ce n'est pas la première fois que le président de la République dénonce ce genre de fait, mais qu'il devrait aller un peu plus loin. Hein. Il donne même l'exemple. On sait qu'il y a quelques années, ce président Laurent Désiré Kabila avait mis à la porte 315 magistrats. Le président de la République ne peut-il pas agir de la sorte, par exemple?
Non, il ne peut pas le faire. Même l'honorable Louaka, qui a été président du Parlement, il sait pertinemment bien qu'il ne peut pas inciter le chef de l'État à violer la loi. Alors, en ce qui concerne les décisions, c'est arrêté, ce n'est pas le chef de l'État. Mais c'est toujours des décisions préparées par le corps lui-même, par les instances gouvernementales ou alors le corps judiciaire lui-même. Le chef de l'État n'a pas un pouvoir propre direct. Il ne faut même pas invoquer l'alliance Palou, je ne sais pas, AMP ou quoi. Non, là, ce serait l'amener tout droit à violer la Constitution. En ce qui concerne l'idée que le chef de l'État puisse passer outre pour ordonner les poursuites par le biais du ministère public, il faut dire que l'indépendance de la magistrature, telle qu'elle est entendue aujourd'hui, inclut même l'indépendance du parquet. Alors que traditionnellement, et ce qu'il a dit est vrai dans beaucoup de pays, traditionnellement, le parquet est le bras du gouvernement. Et c'est pour ça qu'on dit généralement qu'il faut parler de l'indépendance du juge et pas de l'indépendance de tous les magistrats. Malheureusement, la conception qui a été reprise chez nous, c'est l'indépendance du corps judiciaire tout entier. Donc même de ce point de vue, le chef de l'État n'a pas un pouvoir d'injonction sur le parquet. C'est le parquet lui-même qui doit décider d'initier des poursuites et de les poursuivre ou alors de recevoir des notifications. Donc il faut pas qu'ils pensent qu'on est dans l'ancien système. Le système actuel ne permet pas au chef de l'État d'intervenir. Et d'ailleurs, le syndicat des magistrats est souvent revenu sur cette inquiétude.
Honorable Thomas Louaka, chers auditeurs, vous allez comprendre qu'on n'a pas encore le professeur Evita Mbokolo. Honorable Thomas Louaka, pour Maître Jean Bouyou, il ne faut pas amener le chef de l'État à violer la Constitution. Lui-même, il a dit dans son discours, il va agir, mettre fin à cet état de choses dans un bref délai avec le concours des instances attitrées.
Tout à fait. Non, je ne cite pas les chefs de l'État à violer la loi. Peut-être j'ai été mal compris par Maître Mbouyou. Non, le problème fondamental est le suivant. Le syndicat de la magistrature a dit qu'il faut s'attaquer à la cause de cette déliquescence de l'appareil judiciaire. Les deux causes sont connues, c'est les conditions de travail et les rémunérations. Deuxièmement, la corruption qui gangrène l'institution. On pense que le chef de l'État a un moyen d'améliorer, en tout cas de contribuer à améliorer les conditions de vie de nos magistrats si nous considérons que le pilier de la paix ou bien le pilier social de notre pays, c'est la justice. Tant qu'on n'a pas la justice, on n'a pas la paix, parce que c'est le pape Pie XII qui disait que la paix est le fruit de la justice. Donc, le chef de l'État, sur ce plan-là, il peut intervenir. Sur l'autre plan, sur le plan de la corruption, lorsque Maître Mbouyou me dit que le chef de l'État, dans notre entendement, l'indépendance est totale. En effet, il est en train de m'expliquer que c'est un aveu d'impuissance. Ça veut dire que le chef de l'État dénonce, mais il ne peut rien faire, puisque la magistrature est indépendante. Nous devons attendre qu'elle agisse elle-même en interne. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Et je ne pense pas que ce soit le message que le chef de l'État ait voulu faire passer. Vous-même, vous avez dit, en se référant aux autorités compétentes, aux instances compétentes, il y a moyen, en améliorant les conditions de vie des magistrats, ça c'est primordial, parce que moi-même, peut-être que vous ne le savez pas, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Je vois dans quelles conditions les magistrats travaillent, et parfois quand on n'a pas vous n'avez pas la vocation, vous ne pouvez pas faire ce travail-là, dans des conditions très difficiles. Cela n'explique pas, ou n'encourage pas, ou ne justifie pas la corruption de certains membres de ces corps, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose pour que la justice marche droit.
Maître Jean Bouyou, venez de suivre Thomas Louaka.
Il faut améliorer. C'est le Parlement qui vote le budget. C'est nous les députés, c'est le Parlement qui doit allouer plus de moyens à la justice. On ne peut pas envoyer ça au niveau du chef de l'État ou de l'exécutif.
Il n'est pas d'accord avec vous.
Je pense que la population est en train de nous suivre.
Oui.
Quel est le niveau d'exécution du budget que nous adoptons à l'Assemblée nationale? Vous le savez très bien. L'exécutif fait ce qu'il veut du budget que nous adoptons. Nous pouvons, vous avez la majorité, une majorité écrasante. Donc c'est de votre responsabilité. Voilà pourquoi je reviens encore à l'AMP par vous. Si même vous ne voulez pas assumer cette étiquette, vous êtes majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, vous pouvez passer le budget que vous voulez.
Maître Jean Bouyou,
oui.
La corruption gangrène quand même beaucoup de paramètres dans ce pays, ou beaucoup de secteurs, pour ne pas dire tous. Mais est-ce opportun pour le chef de l'État de ne pointer que la justice?
Non, je pense que la justice est peut-être le domaine où elle est le plus visible. Et je crois que la question de la justice sociale, de la corruption dans le système, est une question globale. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, le problème est qu'il faut commencer par quelque part. Et il faut, pour moraliser, commencer aussi par un tableau donné. Je ne crois pas qu'il faut y aller, disons, non dispersé. Elle est multiforme, elle a plusieurs causes. Et on ne peut pas penser que puisqu'elle est partout, il faut commencer par arranger partout, alors que les moyens budgétaires, tout le monde le sait, ne sont pas suffisants pour équilibrer le budget en faveur de ces rémunérations-là. Je dirais, à mon avis, qu'il s'agit d'une question de responsabilité collective, une question qui nous met tous en cause, qu'on soit majorité ou opposition, mais c'est une question de la nation, parce qu'on ne sait pas y remédier immédiatement, vu qu'on ne peut pas, disons, budgétairement, être amené à voter un budget qui permette à tous les administratifs et tous les magistrats et à tous les corps d'avoir des salaires qu'il faut aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que vous répondez quand l'honorable Thomas Louaka dit que la façon dont le président a présenté les choses, c'est un aveu d'impuissance?
Bon, moi, D'abord, il est du rôle du chef de l'État, en tant qu'élu au suffrage universel, de relever ce qui ne marche pas. Parce que qu'est-ce qui se passe en pratique? Quand les gens sont victimes de la justice, de corruption, ils s'adressent au chef de l'État, ils lui écrivent, ils lui demandent à lui d'agir. Donc ce n'est que normal que lui aussi, lorsqu'il s'adresse aux institutions, au peuple, qu'il rende compte de toutes ces insuffisances-là. Et celles qui dépendent de son pouvoir, et celles qui ne dépendent pas de son pouvoir. Parce que n'oublions pas tout de même que la gestion quotidienne est du ressort du chef du gouvernement. Mais je suis d'avis qu'effectivement, il y a un certain nombre de problèmes que nous ne savons pas résoudre, et qui a conduit d'ailleurs un professeur d'université ici, Kaïm Bantamba, de formuler même une théorie scientifique appelée la théorie des impuissances. Considérant que la plupart des régimes du tiers-monde sont impuissants de répondre aux problèmes et aux attentes de leurs citoyens. Donc je ne dirais pas que le chef de l'État a les moyens nécessaires de répondre à tout, mais je dirais plutôt qu'il veut partager la possibilité d'améliorer, de changer avec son peuple, en rendant compte de ce dont il est destinataire par le fait des correspondances et des plaintes de son peuple.
Honorable Thomas Louaka, la lutte contre la corruption, d'après Maître Jean Boulou, c'est une question collective.
Je suis tout à fait d'accord, c'est une question collective, mais je pense que la responsabilité ou les rôles que les gens qui sont au pouvoir, au niveau du gouvernement, au niveau du chef de l'État, ils ont un rôle important à jouer. C'est eux qui ont l'impérium, les prérogatives étatiques pour pouvoir combattre ces systèmes-là. C'est vrai que c'est une culture, qu'il faut une rééducation, et c'est une culture, il faut mettre fin à l'impunité. Le chef de l'État a commencé par la justice, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que les Congolais demandent? Les Congolais demandent trois choses.
Lesquelles?
C'est dans notre devise, justice, paix, travail. Le chef de l'État a parlé de la justice, nous espérons, Dieu nous entende, qu'il va y avoir des changements. Et ce n'est pas la première fois qu'on nous promette des choses dans le domaine de la justice. Mais la paix, le travail, n'est pas là. Ça aussi, c'est des priorités. Mais pour revenir à cette question-là, je pense que nous tous, nous pouvons contribuer à combattre les fléaux de la corruption. Nous avons même appris que le chef de l'État allait nommer l'un de ses conseillers, je crois, chargé de la lutte contre la corruption. Mais nous voulons vraiment voir si ce ne sont pas des déclarations en l'air ou bien si cela va être suivi par des actes concrets, parce que la population, de plus en plus, elle devient dubitative.
La réalisation me fait toujours signe qu'on n'a pas encore le prof Eli Kiambokolo. Maître Jean Bouillou, il y a un auditeur anonyme qui dit ceci, la réaction est un peu longue, mais je préfère la lire telle qu'elle. L'ancien ministre, après le premier ministre Godefroy Mayobo, avait au cours d'une conférence de presse parlé de la disparition d'un milliard de dollars des caisses de l'État, et puis il n'y a eu aucune suite. Ensuite, le ministre actuel de la Justice a décrété la chasse au détournement d'argent destiné à la construction des routes. Quelques Occidentaux ont été mis à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Après les avoir libérés, on n'entend plus rien. Vient aujourd'hui le tour du chef de l'État qui annonce vouloir s'attaquer aux magistrats. Je mets au défi quiconque, après un mois, on n'entendra plus ce slogan.
Oui, je dois dire d'abord que le chef de l'État ne dit pas qu'il va s'attaquer aux magistrats. Il va s'attaquer aux problèmes de la corruption dans les instances judiciaires. Il est vrai que pour un magistrat du parquet, depuis le procureur général de la République jusqu'au substitut du procureur de la République, ils n'ont besoin d'aucun ordre pour poursuivre une infraction. La loi leur reconnaît le pouvoir de se saisir d'office dans tout un millier d'infractions, hormis quelques infractions listées où il faut une plainte express. Donc, quand on pose le problème de la magistrature, il y a une idée qui pense justement qu'elle est faible parce qu'elle se fait faible. Si elle prend la loi de elle prend son bâton en main, eh bien, les politiciens, les PDG, ils vont la subir. Il y a même dans l'histoire de certains pays, on a parlé de république des magistrats. Parce qu'à un moment donné, ils ont décidé systématiquement, dès qu'ils sont saisis d'une infraction, ou dès qu'ils la constatent quelque part, d'agir. Et ça ne leur est pas refusé.
Mais il y a aussi le syndicat des magistrats, le syndicat autonome des magistrats du Congo qui a déclaré qu'il faudrait que le chef de l'État étende la justice aux ministres et aux députés que vous êtes. Mais on ne l'a pas encore senti jusque-là.
Mais non, aucun magistrat n'est limité en ce qui concerne la mise en accusation d'un ministre ou d'un député. Il n'y a que la limite de l'autorisation quand il s'agit de ministre, ou alors de lever de l'immunité quand il s'agit de député. Mais il faut qu'il y ait au préalable un dossier. Il faut qu'il y ait une instruction qui a commencé d'effet, à base desquels on peut dire non, ce monsieur a commis un acte illégal, infractionnel, on va le poursuivre. Mais si les magistrats eux-mêmes ne créent pas des dossiers, qu'ils présentent devant le gouvernement ou bien près du chef de l'État, qu'ils présentent au Parlement, s'ils ne créent pas ce genre de dossier, mais comment est-ce que l'immunité sera levée, comment est-ce que le chef de l'État pourra autoriser ou ne pas autoriser les poursuites?
Honorable Thomas Louaka, il faudrait que les magistrats créent des dossiers pour que le chef de l'État puisse faire quelque chose.
Non, je pense qu'on déplace les problèmes. On déplace les problèmes. Nous savons les obstacles que certains magistrats rencontrent lorsqu'ils veulent établir la vérité ou créer un dossier dans certains domaines. Les gens les plus exposés, ce sont les gestionnaires. Ce ne sont pas les députés. Un député ne gère pas un département. Ce sont les gestionnaires des entreprises publiques. Ce sont les ministres, les gens qui sont susceptibles.
Et mais on a quand même appris des disparitions des fonds à l'Assemblée nationale.
Vous avez appris, l'Assemblée nationale avait justement voté des résolutions qui mettaient à la disposition de la justice un certain de nos collègues. Donc on a essayé de couvrir personne. Donc de ce côté-là, je peux dire qu'on a essayé de faire de notre mieux. Mais il faudrait aussi que les suspicions, les accusations graves de détournement des deniers publics au niveau des entreprises publiques, au niveau de certains membres du gouvernement, c'est là aussi qu'on puisse un jour quand même établir la vérité.
Mais le comble, c'est que les recommandations que vous formulez au niveau de l'Assemblée nationale, le taux d'application est nul. Hein?
Oui, mais c'est ça que je disais tout à l'heure en parlant du budget. Eh bien, j'ai même l'impression que j'ai embarrassé mon confrère Maître Mbouyou en parlant de l'AMP Palou, mais il faut assumer, Maître, c'est votre famille politique. Mais lorsque les députés de la majorité ou l'Assemblée nationale adoptent des résolutions, des recommandations au niveau du gouvernement qui ne sont suivies d'aucun effet, vous devez être interpellé comme membre de cette majorité.
Nous allons prendre quelques réactions des auditeurs avant de redonner la parole à Maître Mbouyou. Jacques Makouil de Mbandaka à l'Équateur est vraiment d'accord avec le discours du président de la République car les magistrats ne respectent pas leur loi organique. Norbert Douvira au Sud Kivu se demande pourquoi le chef de l'État cherche à se cacher derrière le dysfonctionnement de la justice. Franck de Boutembo au Nord Kivu pense que le chef de l'État ne devrait pas se limiter à la punition des magistrats. Il devrait d'abord sanctionner certains de ses ministres accusés de mégestion. Daniel Mabélé de Kinshasa n'est pas sûr que le chef de l'État pourra réussir à mettre fin à la corruption car elle touche toutes les couches de la population congolaise. Il préfère au contraire que le chef de l'État combatte la cause, c'est-à-dire le mauvais traitement des Congolais en général et des magistrats en particulier. Bernard de Bougna en province orientale estime que le président Joseph Kabila a raison. Il affirme qu'en Ituri, par exemple, il n'y a pas de justice tant pour les civils que pour les militaires à cause de la corruption. Selon lui, les magistrats sont d'ailleurs de grands protecteurs des malfaiteurs et voleurs à main armée. Il conclut en disant que les magistrats sont la cause de beaucoup de désordres en RDC. Kasongo de Lubumbashi au Katanga pense que le président de la République a bien fait lorsqu'il promet de mettre fin à cet état de choses en ce qui concerne les abus des magistrats, mais il pense également qu'il ferait mieux de mettre effectivement fin à ces abus au lieu de promettre. Jean-Paul Numbi de Likasi au Katanga, toujours, estime qu'avant de condamner les magistrats, le président devrait d'abord améliorer les conditions salariales de ces personnes censées dire le droit. Maître Jean Bouillou, pouvez-vous donner une réponse résumée à ces réactions des auditeurs parce que d'ici là, nous allons prendre la deuxième partie de notre émission.
Oui, je pense d'abord qu'il y a une volonté commune, un constat, c'est que la société fonctionne mal, elle est corrompue.
Mais vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous faites?
Oui, non, je voudrais d'abord rendre compte, après le constat, de ce qu'il faut faire.
Je vous en prie.
Ce qu'il faut faire, c'est que ceux qui sont chargés de la loi, ce qu'on appelle l'organe de la loi dans la société, puissent réagir. Et là-dedans, on se demande, faut-il d'abord bien payer le magistrat pour qu'il réagisse? Ou bien faut-il que le magistrat réagisse d'abord pour qu'on le prenne comme un acteur social important? Et tout le débat est là. on se renvoie là-bas. Le gars, il faut bien les payer pour qu'ils travaillent bien. Non, il faut réellement bien les payer. On est d'accord. Mais faut-il penser qu'en les payant bien, on va changer la moralité de ces hommes? Et comme nous l'avons dit la fois passée lors du débat sur le Conseil supérieur de la magistrature, il y a deux aspects. Il y a aujourd'hui des bons magistrats, des gens qui prennent comme leur métier ou leur charge comme un apostolat. Et ils existent. Et nous avons dit que la première chose que le Conseil supérieur de la magistrature devrait faire, c'est de récompenser d'abord ces bons-là, dans les conditions qui sont les leurs aujourd'hui. Deuxièmement, nous soutenons l'idée que nous devons travailler collectivement pour que nous puissions gagner plus de moyens budgétaires pour soutenir les magistrats et soutenir les fonctionnaires et toutes les autres instances de fonctionnement administratif. Mais troisièmement, le rôle dirigeant des instances politiques, c'est-à-dire le président de la République, le chef du gouvernement, l'institution parlementaire, le pouvoir judiciaire, toutes ces institutions sont nécessairement obligées de s'engager pour cet objectif-là. On ne peut pas, le peuple tout entier d'ailleurs, on ne peut pas laisser cette fonction au seul chef de l'État ou au seul magistrat ou au seul... Non, il s'agit d'une lutte collective que nous devons mener, étant conscient que nous devons tendre au mieux malgré les conditions que l'on a aujourd'hui. Merci, et c'est pour ça qu'il faut récompenser les bons, ceux qui montent le chemin.
Merci maître. Honorable Thomas Louaka, vous venez de suivre la réaction de maître Jean Bouillot par rapport aux réactions des auditeurs. Faut-il bien payer le magistrat pour qu'il travaille bien ou faut-il qu'il travaille bien pour mieux le payer?
Non, je pense qu'il faut commencer par améliorer les conditions. Je vous donne un exemple. Un policier qui touche 26 000 francs congolais. Qu'est-ce que vous attendez qu'il fasse comme travail? Il est tenté par la corruption. 26 500 francs congolais par mois, c'est que touche un policier. Donc, pour les magistrats, moi je dis ceci, il y a deux choses à faire. La première des choses, vous améliorez les conditions de vie et les conditions de travail de magistrats. Deuxièmement, vous augmentez le niveau de la rigueur, le niveau de rigueur, le niveau de la discipline au niveau du corps. Parce qu'à ce moment-là, la personne n'a plus d'excuses pour pouvoir être corrompue, pour pouvoir, je ne dis pas que vous allez lui donner un salaire d'un magistrat américain ou français, mais quand même, lui donner un salaire décent qui convient à la dignité de son corps. Commencer par bien payer les gens et puis sanctionner, mettre ça à l'impunité. Voilà, je pense que c'est les deux propositions que nous pouvons faire.
Merci beaucoup, Maître Mbouyou. Nous vous remercions et nous allons vous libérer pour passer à la deuxième partie de cette émission. Merci d'avoir infiniment accepté d'y participer. Au revoir.
Merci.
Alors, nous poursuivons la deuxième partie de cette émission, mais avant, le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Juste vous rappeler que dans cette deuxième partie, nous avons comme invité Thomas Louaka, député national, secrétaire général adjoint et porte-parole du NLC, professeur Elika Mbokolo, analyste politique et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, Lambert Mende, ministre de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement central qui va bientôt nous rejoindre tout à l'heure. Alors que la RDC célébrait la fête d'indépendance hier, les combattants hutu-rwandais des FDLR ont encore frappé au nord Kivu. Ils ont attaqué une position des FARDC à Kasegi, localité située à plus de 250 km au nord de Goma, dans le territoire de Lubero. Des sources locales parlent d'une attaque menée par une coalition Mai Mai et FDLR contre les FARDC, mais les responsables militaires FARDC parlent uniquement d'une attaque des FDLR sur leur position. Le bilan provisoire est lourd, indique des sources sur place, les détails avec Sifamagourou.
Environ 20 morts, dont 5 FARDC et 15 combattants FDLR, c'est le bilan provisoire fourni par des sources sanitaires à Kasehe. La même source indique que 5 blessés, dont 3 graves, sont actuellement pris en charge dans leur institution. Mais les commandants des opérations Kimia 2 au Nord Kivu parlent lui de 3 FARDC tués et 8 FDLR dans les affrontements. D'après les autorités locales à Kasehe, c'est vers 4h du matin que la position des FARDC a été prise à feu par des combattants FDLR qui seraient mêlés aux Mai Mai qui sont venus de Kibao à près de 5 km de Kasehe. Pendant plus de 3 heures, les affrontements ont opposé les FARDC à ces combattants, précisent les mêmes autorités. Du côté des civils, aucun bilan n'est encore disponible. On signale toutefois que pendant les tirs, certaines familles ont abandonné leur domicile. Présentement, la situation frontière est devenue calme, les FRDC disent avoir repris les contrôles totaux du village. Selon le commandant d'opération Kimia 2, les FRDC ont récupéré 5 armes abandonnées par les combattants FDLR et précisent que 3 de ces combattants ont été capturés. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Merci Sifamaguru. 140 maisons brûlées et plusieurs biens pillés, c'est le bilan d'une autre attaque des FDLR la nuit dernière à Miriki, localité située à 200 km au nord de Goma, toujours dans le territoire de Lubero. Monsieur le ministre Lambert Mende, bonsoir.
Bonsoir.
Comment vous expliquez cette énième attaque des FDLR en pleine commémoration de l'indépendance?
C'est très clair, c'est une action terroriste qui vise à démoraliser les populations congolaises, à essayer de démontrer que les opérations de répression qui sont conduites par l'armée avec l'appui de la MONUC pour désarmer les FDLR ne produisent pas d'effet. Alors que nous savons que ces opérations ont affaibli sensiblement les FDLR, mais ils poursuivent avec leurs opérations, comme tous les terroristes, ils ne peuvent vivre que de la peur qu'ils inspirent à leurs victimes. Je pense que c'est l'explication qu'il faut donner à cela. Le défilé de Goma a été un moment fort, un signal très fort pour indiquer que la pacification était en route et que toute cette agitation, c'est un peu des gouttes d'eau après l'orage et ils sont désespérés parce qu'ils perdent ainsi leur fonds de commerce, c'est-à-dire la terreur qu'ils inspiraient aux Congolais. Et voilà, ça donne lieu à des agitations pour démontrer que rien n'a changé. Le Congolais doit vivre sous la peur et le laisser opérer impunément en territoire congolais.
Monsieur le ministre Lambert Mende, qu'est-ce que vous répondez à Robert Bahomé de Bukavu au sud Kivu qui se demande si cette attaque des FDLR face au FARDC doit être interprétée comme un défi au gouvernement congolais en
raison même de l'indépendance? Défi, pas seulement le gouvernement. Je suis étonné que votre auditeur, qui connaît bien la situation puisqu'il vit au Kivu, puisse isoler le gouvernement par rapport au reste de la population. Le gouvernement n'était pas là que les FDLR avaient envahi le Kivu en 1994. C'est un défi au peuple congolais. Et j'aimerais que tous nous soyons soudés face à ces terroristes. Au lieu d'isoler le gouvernement, défi au gouvernement. C'est un défi au Congo et le gouvernement doit répondre pour le Congo.
Honorable Thomas Luaka, vous, membre de l'opposition, vous devez être soudé au gouvernement au lieu de lui lancer chaque fois les pierres à ce sujet.
Non, tout à fait, tout à fait. Nous pensons que les victimes de toutes ces exactions sont nos compatriotes de l'Est qui continuent encore à souffrir. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui s'est passé hier à l'Est et là-bas, c'est la preuve de deux échecs.
Lesquels?
Le premier échec, c'est l'échec de l'opération conjointe. On nous a informé ici que l'opération conjointe avec l'armée rwandaise était une réussite totale. Réussite totale, ça veut dire quoi? Ils ont atteint leur objectif à 100%. L'objectif, c'était de neutraliser les FDLR. Aujourd'hui, nous rendons compte que les FDLR continuent à opérer comme avant. D'ailleurs, ils sont devenus un peu plus virulents encore aujourd'hui. Premier échec, opération conjointe. Il faudrait aussi un jour qu'on fasse le bilan de cette opération, combien ça a coûté à la République. Deuxième échec, c'est l'échec, la preuve de l'échec de la réforme de l'armée. Le gouvernement a échoué à réformer l'armée. Vous savez combien de militaires nous avons au nord qui voient à peu près? On estime, après peu, les FRDC sont autour de 40 000 militaires déployés dans le nord qui. Et on n'arrive pas à sécuriser. Ce n'est pas la faute des FRDC, mais c'est la faute des responsables qui ont en charge la réforme de cette armée, qui est en fait aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a une armée là-bas, on a une juxtaposition des forces et des unités. Vous savez qu'il y a à peine 6 mois, 8 mois, les CNDP se battaient avec les gouvernements. Du jour au lendemain, on les met ensemble, on dit voilà, vous êtes devenus des camarades, allez mener des opérations conjointes contre les FDLR. Donc je pense que si on continue à se prendre comme ça, si on ne prend pas au sérieux la question de la réforme de l'armée, nous allons continuer à vivre, à déplorer de tels actes barbares de la part de ces troupes étrangères.
Professeur Eric Mbokolo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Nous avons, dès le début de cette émission, eu quelques problèmes à vous joindre. Pour l'honorable Thomas Luaka, c'est deux échecs, celle de l'opération conjointe et de la réforme de l'armée. Pour le ministre Mende, c'est encore une action terroriste des FDLR. Votre lecture à ce niveau du débat?
Oui, bon, je suis désolé d'être venu un peu en retard, c'est les perturbations de la capitale. Bon, je crois qu'il y a une première chose, et sur ce point, le ministre Médé a dit quelque chose qui est important à souligner, c'est que en choisissant la date du 30 juin pour mener cette attaque, les agresseurs se mettent en quelque sorte en dehors de la nation. Parce que le 30 juin, c'est une date sacrée pour tout le peuple congolais, c'est la date anniversaire de notre libération, et donc choisir cette date-là pour mener une attaque militaire dans laquelle des populations civiles payent un tribut lourd, c'est déclarer qu'on est en dehors de cette nation que l'on combat. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important qui doit être souligné chaque fois que on parle de ces gens-là, et également par rapport à la manière dont on doit les évoquer. Alors, l'autre chose qui est là-dedans, c'est le problème de l'armée qui est posé. L'honorable député qui représente l'opposition évoque en effet la question de la réforme de l'armée. Ce que moi je dirais, c'est que c'est peut-être trop rapide d'imputer cet échec au seul gouvernement actuel qui est issu des élections de 2006, parce qu'on peut penser que ce n'est pas en 3 ans qu'on crée une armée qui soit capable de défendre un État. Hein, nous savons que la question de l'armée est une question lancinante dans notre pays. Le régime Mobutu s'est cassé les dents face à l'attaque des soi-disant gendarmes katangais en 77-78 et finalement est tombé face aux troupes de l'AFDL. Nous savons qu'ensuite la République démocratique du Congo n'a pas été en mesure, en héritant de cette armée-là et en essayant d'amalgamer ses soldats avec d'autres, de monter une armée. Je crois que c'est une question qui n'est pas posée seulement au gouvernement actuel, la question de l'armée. Hein, la question de l'armée est une question qui est une question nationale et qui n'est pas seulement la question du gouvernement en place. Et je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure sur la justice, c'est-à-dire il faut des moyens financiers, il faut des moyens humains, il faut également une sorte de réforme morale, psychologique et idéologique pour ramener nos soldats à leur devoir, qui est de faire la guerre pour défendre la patrie et au besoin de mourir pour la patrie, et mettre aussi à leur disposition des moyens financiers qui fassent en sorte que ils sachent qu'ils ne sont pas sacrifiés pour rien.
Merci pour
cette question-là, je crois, est une question très très longue que tous les gouvernements vont devoir résoudre d'ici plusieurs années.
Merci professeur. Monsieur le ministre Lambert Mende, vous avez suivi Thomas Luaka et le professeur Elikia Mbokolo. Pour Thomas Luaka, c'est un double échec, celle de l'opération conjointe et de la réforme de l'armée. Ne pensez-vous qu'il soit temps que le gouvernement puisse changer de stratégie?
Mais d'abord, je salue l'honorable Luaka, ça fait longtemps que je ne l'ai vu, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur l'échec de la réforme de l'armée, l'échec de l'armée. Je serai plus près des positions du professeur Elikia Mbokolo à ce sujet-là. Je voudrais dire que ici, le nombre de militaires, je ne sais pas d'où ils tirent les 40 000, nous savons que c'est une information classée que nous n'avons pas donnée, donc... il a peut-être le contrôle de ses sources, mais je prends l'exemple de l'Irak. Il y avait plus de 150 000, je crois 200 000 soldats américains en Irak, et il ne se passait pas 2 jours sans que des groupes de combattants islamiques ne frappent l'armée américaine. On dit qu'elle est devenue la plus faible du monde pour autant, donc c'est une histoire de nombre, de chiffres, tout ça, ça n'a aucun impact sur une situation, pour autant qu'on a affaire à des gens qui ont des objectifs, qui sont ceux que le professeur Elikia Mbokolo vient de définir. Et quant à la responsabilité du gouvernement, elle existe parce que le gouvernement a hérité, bien sûr, d'une situation, mais elle n'est pas exclusive. Nous sommes face à une armée qui n'a pas réussi sa mutation d'une armée coloniale en une armée nationale en 60, que nous n'avons pas encore réussi à mettre ensemble. Vous savez, c'est des amalgames, c'est des juxtapositions. Le maire de Louaka lui-même l'a dit. Nous sommes forcés par les faits, c'est un héritage. Nous ne pouvons pas jeter tous ces gens à la mer. Et quant à l'idée selon laquelle ces militaires, parce qu'ils ne sont pas bien payés, parce qu'ils ne sont pas bien équipés, on ne peut pas les jeter dans les combats, je pense qu'il y a un devoir de résistance. Nous sommes un peuple agressé. Je pense que face à une agression extérieure, on tait les divergences internes. Je ne pense pas qu'il s'agit là d'une question banale sur laquelle nous pouvons nous permettre tout le temps d'évoquer nos petits problèmes de divergence philosophique ou d'orientation politique. Le pays risque de ne plus exister. Alors, sur quel terrain allons-nous appliquer nos programmes, puisque on croit que tout est matière à ces débats politiciens, etc. Je ne pense pas que cette agression soit matière à débat. Ça doit faire l'objet d'un consensus national. Il faut mettre fin à cette agression et il faut une unité nationale. Comme il y a quatre heures au pouvoir, moi, dans l'opposition, je pense que face au FDLR, je l'aurais appuyé pour qu'on puisse le faire partir.
Merci, monsieur le ministre. Il nous reste 4 minutes pour terminer cette émission. Je vais vous demander des réponses très brèves pour nous permettre de terminer en beauté. Honorable Thomas Louaka, vous venez de suivre le ministre Mende, la question de l'armée, de l'intégration de l'armée, de la réforme de l'armée ne date pas d'aujourd'hui. C'est un vieux problème. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement, vous, en tant que membre de l'opposition, pour mettre fin à ce problème des FDLR?
Non, justement, deux choses aussi à ce niveau-là, assez rapidement. Mais j'apprécie tout à fait l'honnêteté du ministre Mende qui reconnaît une part de responsabilité du gouvernement. C'est vrai qu'ils ont hérité du problème de l'armée, mais ils reconnaissent quand même qu'il y a une part. Ça, c'est déjà une très bonne chose, lorsqu'on commence à reconnaître, alors que les autres membres du même gouvernement n'ont jamais reconnu cela. C'est une bonne chose. Mais pour revenir maintenant à ce qu'il faut faire de cette
proposition concrète,
les propositions concrètes sont là. Il faut améliorer les conditions de vie des militaires et l'encadrement. Les officiers formés sont là, sont connus. Il faut les mettre à la bonne place au lieu de commencer à faire du clientélisme au niveau de l'armée. Deuxième chose, il faut améliorer, donc je dis, l'encadrement et la prise en charge. Deuxièmement, l'armée est caractérisée par la discipline. Il faut mettre fin à l'impunité au niveau de l'armée. Je ne veux pas polémiquer là-dessus, monsieur Mende, monsieur le ministre, je suis tout à fait d'accord avec vous que les FDLR, c'est une gangrène, mais je pense que ce que je dis ici n'est pas, je n'ai pas, comment dire ça, remis en cause,
honorable, il nous reste 2 minutes.
Oui, remis en cause la légitimité du combat du gouvernement contre les FDLR.
Professeur Elikia Mbokolo, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur Sondolia, Mumbere et Dobutembo, Nord-Kivu, qui pensent que l'attaque des FDLR à Kasege prouve que les efforts du gouvernement sont mal orientés et que la paix est symbolique au Sud-Kivu.
Oui, en fait, tout à l'heure, on a qualifié cette attaque de terroriste. Je crois que c'est une très bonne qualification et on peut dire que tout gouvernement se trouve en fait désarmé face à des attaques terroristes. On l'a vu récemment en Angleterre, en Espagne et ailleurs. Et dans notre situation au Congo, les gens qui organisent cette attaque mènent une opération de propagande pour dire, voilà, le jour de la commémoration de l'indépendance, nous sommes capables d'organiser cette attaque-là. Je pense que, personnellement, les autorités opposition et majorité confondues doivent profiter de cette occasion pour stigmatiser les gens qui trouvent le moyen de verser le sang des Congolais le jour où les Congolais commémorent la fête nationale. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important au niveau de la communication. Et puis, en second lieu, comme tout le monde l'a dit, s'attacher véritablement à organiser cette réforme de l'armée qui n'est pas seulement financière, mais aussi dans la tête des généraux, dans l'esprit des officiers, dans l'esprit des soldats, qu'ils soient...
Merci, professeur. On vous a compris, professeur. Monsieur le ministre Mende, il nous reste 30 secondes pour clôturer cette émission. Votre conclusion en 20 secondes.
Ma conclusion, c'est que le gouvernement a le devoir, comme l'a dit le professeur Mbokolo, d'éradiquer le terrorisme. Même l'opposition a le devoir de soutenir le gouvernement dans cet acte qui est un acte patriotique majeur. Le pays, pour qu'il puisse s'adonner à ses joutes sur la façon dont il doit être gouverné, doit exister. Et les terroristes veulent mettre fin à l'existence du pays. Mobilisons-nous pour éradiquer les terroristes. Après,
merci,
nous pouvons avancer avec nos débats philosophiques et idéologiques.
Merci, monsieur le ministre. C'est par vous que nous clôturons cette émission. Vous souhaitant bonne suite de programme sur Radio Capi.